Oui, merci Seigneur, comme tu es bon. Merci. Merci de nous donner fin de ta parole. De la même façon que nous apprécions beaucoup plus un repas quand nous avons faim. De la même façon, Seigneur, creuse notre faim de toi pour que cette parole que nous allons entendre maintenant nous fasse du bien, qu'elle porte du fruit dans les jours qui viennent. Seigneur, nous croyons que ta parole est une puissance, ta parole crée, ta parole change les cœurs, ta parole n'a aucune limite. Alors Seigneur, nous croyons que nous ressortirons de ce temple différent de quand nous sommes rentrés tout à l'heure. Nous te demandons, Seigneur, ton Saint-Esprit. Amen. Alors, j'ai retenu donc un seul texte parmi les lectures proposées pour aujourd'hui. C'est le texte de l'Évangile de Marc, au chapitre 9. Donc, Marc 9, les versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum, Jésus et les disciples, bien sûr. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit. Quand Jésus s'assoit, c'est qu'il va donner un enseignement. Hein, faut le dire, ça, dans le texte, ça signifie il enseigne. Hein. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit : Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Voilà. À chaque fois que je découvre ce texte, je lis ce texte, je ne peux pas m'empêcher de me dire, par rapport aux disciples, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces disciples ? On se demande où Jésus a été recruté, cette bande de bras cassés. Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Ils discutent en chemin pour savoir qui est le plus grand, le plus décoré, le plus... spirituellement, bien sûr, j'espère. Bon, il doit bien avoir un qui fait une taille un peu plus que les autres, mais on a bien compris. Et dans une autre traduction, j'ai vu qu'ils se disputent pour savoir qui est le plus grand, hein, parce qu'ici, ils s'étaient entretenus. Bon, c'est peut-être un petit peu édulcoré, là, ma version, hein, parce que j'ai lu donc dans une autre version, oui, ils se disputent pour savoir qui est le plus grand. Oui, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Et pourtant, alors maintenant, je vais prendre un petit peu leur défense, parce que quand on réfléchit, on se met un petit peu à leur place, dans le contexte qui était le leur. Et on se dit que peut-être on n'aurait pas fait mieux. Parce que il faut bien comprendre que Jésus est plus ou moins au début de son ministère, à ce moment-là. Il n'a pas encore vraiment beaucoup enseigné sur l'humilité, la modestie, l'humilité. Alors, quel pouvait être le raisonnement d'un juif de cette époque ? Imprégné de la loi et des prophètes, imprégné de toutes sortes de choses. Alors, l'humilité, les juifs connaissaient vis-à-vis de Dieu. C'est presque plus que de l'humilité, de la crainte vis-à-vis de Dieu. Mais vis-à-vis des autres, l'humilité vis-à-vis du prochain, c'était peut-être quand même quelque chose d'un petit peu nouveau. Il faut quand même le reconnaître. Et puis, dans un deuxième temps, toujours pour prendre la défense de ses disciples, puisque j'ai dit qu'ils étaient bêtes, hein, je vais essayer de me rattraper. Très honnêtement, chacun de nous au fond de notre cœur, posons-nous la question. Est-ce qu'on ne s'évalue pas un petit peu les uns les autres? Alors, pas à vive voix, bien sûr, je dis bien au fond de nos cœurs. Très honnêtement, alors chacun répond pour lui-même dans sa tête, hein, bien sûr. Mais est-ce que on ne fait pas un petit peu la même démarche que les disciples de savoir qui est grand, qui est petit dans la foi? Vous savez, du genre, tel frère, mais c'est un bon chrétien, voilà. Connaît sa Bible par cœur, il cite les références, bon chrétien, ça. Ah, ouais. Puis voir les belles prières qu'il fait. Ah, lui, il n'y a pas de doute, c'est un cadeau dans la foi. Par contre, tel frère, telle sœur, on ne le voit pas souvent au culte. C'est un petit dans la foi, lui. Hein. Il a l'air de découvrir des textes qu'on connaît par cœur, donc pas terrible. Honnêtement, est-ce que nous ne faisons pas ces raisonnements? Et dans l'histoire, est-ce qu'on ne se situe pas, nous, personnellement, sur une échelle? Qui en général, on se situe plutôt vers le haut, hein, en se disant, je suis quand même pas mal, hein, je vais souvent au culte, je donne quand même pas mal à la collecte. Alors vous voyez, finalement, je crois qu'on peut tenir la main des disciples, hein, dans cette démarche. C'est une tendance, est-ce qu'il faut s'en affliger? Il ne faudra pas aller jusque-là, mais on ne peut pas s'empêcher de s'évaluer et d'évaluer les autres. Bon, alors voilà les disciples réhabilités. Ceci étant, ils avaient quand même mauvaise conscience, parce que quand Jésus leur demande de quoi parliez-vous un chemin, il n'y a personne pour répondre. Donc c'est que certainement, ils avaient quand même une petite mauvaise conscience. Hein. Alors, puisque nous sommes également concernés par ce problème, je crois que l'enseignement de Jésus, que Jésus donne ici, eh bien, il nous frappe de plein fouet également, nous-mêmes. Alors, quel est cet enseignement? Ben, évidemment, c'est l'enseignement sur l'humilité. Mais je crois que ici, Jésus nous donne vraiment un chemin à suivre pour aller vers cette humilité. C'est vraiment un enseignement pratique. Vous voyez, Jésus ne se contente pas de dire « soyez humble ». Il nous donne un chemin. Et dans l'évangile de Marc, ici, ce chemin est assez difficile à cerner, parce que je crois que Marc a livré vraiment les choses comme elles étaient, sans trop essayer de les interpréter. Si vous prenez le même texte, le même récit, je veux dire, le même événement dans l'évangile de Matthieu, vous verrez que c'est beaucoup plus simple, plus limpide, mais peut-être moins riche. Parce que dans l'évangile de Matthieu, peut-être Matthieu a eu vraiment trop honte de dire qu'il s'était disputé pour savoir qui était le plus grand. Alors, il a marqué, vous verrez ça, que dans Matthieu, donc, que les disciples allaient retrouver Jésus pour lui demander qui était le plus grand. C'est déjà un petit peu édulcoré. Et puis, là-dessus, Jésus leur dit, le plus grand, c'est celui qui se fait les serviteurs, comme ici. Mais Jésus prend un petit enfant et dit, voilà, celui qui est comme ce petit enfant, c'est lui le plus grand. C'est beaucoup plus simple. Là, on a l'impression qu'il y a il y a deux parties à l'enseignement, et que ces deux parties n'ont pas grand-chose à voir l'une et l'autre. Parce que, première partie, Jésus dit, c'est le plus grand, c'est celui qui se fait serviteur des autres. Et deuxième partie, il prend un petit enfant et il dit, si vous recevez l'un de ces petits enfants en mon nom, eh bien vous me recevez moi-même, etc. On se dit, mais quelle est la relation? Quelle est la relation? Alors on va essayer de décortiquer un peu ça. Je ne vous cache pas que, pour ce qui est de l'humilité, c'est un thème qui me met un petit peu mal à l'aise. Ma femme vous dirait que question humilité, il faudrait que je m'écoute moi-même. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure dans la voiture. C'est vrai que, pour la modestie, je ne crains personne. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose, mais d'essayer d'éclairer, simplement d'éclairer un petit peu les propos de Jésus, qui sont, c'est vrai, pas faciles à cerner. Pourquoi l'humilité est un sujet? On se rend compte, quand on lit l'Évangile, que c'est véritablement un pilier, une base. Tout l'évangile est basé sur l'humilité. C'est pas compliqué à découvrir. Jésus, dès sa naissance, dans une étable, couché dans de la paille, dans une mangeoire pour animaux. Vous voyez, ça commence fort. Hein. Et puis, la fin, hein. La fin, c'est pas spécialement grandiose. Cloué sur une croix comme un vulgaire brigand. C'était la mort la plus infamante, hein. C'est clair. Vous voyez l'épisode du lavement des pieds, etc., etc. Donc, vous voyez que le ministère de Jésus est placé sous le signe de l'humilité de A à Z. Vous direz depuis l'alpha jusqu'à l'oméga. Je vous rappelle également les nombreux enseignements sur l'humilité. Hein. Jésus dit à un moment donné que l'humilité, alors que je cherche les références, mais j'ai la flemme, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Il y a du travail, hein, les amis. Hein, dans l'amour et dans l'humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Dans les épîtres, Paul écrit dans une épître, il écrit tout ce que vous voudriez que les autres vous fassent, faites-le aux autres, enfin, quelque chose comme ça. Bon. Vous voyez, l'Évangile, le Nouveau Testament tout entier est imprégné de cette notion d'humilité. Et alors, donc du coup, on se dit, on n'y échappe pas. L'humilité est une clé incontournable. Il n'est pas question de faire l'impasse. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alors pourquoi autant de difficultés? Eh bien, parce que, de toute évidence, l'humilité est contraire à notre nature profonde, notre nature pécheresse. Vous en voulez une preuve? Je vous renvoie aux premières pages de la Genèse. Vous voyez le péché originel, qu'est-ce qui se passe au moment du péché originel? Qu'est-ce que Satan sollicite chez l'homme? Il sollicite son orgueil, qui est évidemment le contraire de l'humilité. Finalement, il lui fait miroiter que, en cueillant le fruit défendu, ce qui est certainement une image, il deviendrait comme Dieu. Vous voyez, c'est la même chose qu'il fait d'ailleurs avec Jésus dans le désert, hein, c'est un remake. Hein. Jette-toi du haut, etc. Et là, Jésus pourrait, parce qu'il est vraiment Dieu. Mais bon, je m'égare un petit peu. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'Éden? Oui, c'est l'orgueil. L'homme se dit, oui, après tout, je pourrais être à la place de Dieu. En tout cas, je pourrais être mon propre Dieu. Alors, en toute logique, l'humilité, comme l'a pratiqué Jésus, l'humilité est donc l'antidote de l'orgueil. Voilà pourquoi elle est incontournable. Alors maintenant, comment accéder à cette humilité vis-à-vis des autres notamment? Alors là, c'est un petit peu le point difficile, parce que Jésus dit, ben, celui qui va être le premier, qu'il soit le dernier, et qu'il soit le serviteur de tous. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas l'explication complète de ce que ça peut vouloir dire, parce que si je vous dis maintenant, ben, allez, soyez les serviteurs les uns des autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir les larbins, bien sûr, on peut se rendre des services, dans l'amour fraternel, voilà, c'est bien. Mais devenir serviteur, ça devient quelque chose de compliqué, devenir serviteur les uns des autres. Enfin, je pense que Jésus, ici, attire notre attention beaucoup plus sur l'esprit que la lettre de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à cette époque, dans l'Antiquité en général, les serviteurs, c'est pratiquement les esclaves, hein, on va dire, étaient vraiment socialement tout en bas de l'échelle. Et donc, ils avaient nécessairement une attitude, des propos, un comportement de la plus parfaite humilité. Et Jésus donc fait allusion à cette caractéristique des servantes et des serviteurs, caractéristique d'humilité profonde. Voilà, donc je pense qu'il faut s'attacher surtout à l'esprit de ce que dit Jésus. Donc, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous. Bon. Alors après, deuxième partie, il prend un enfant. Alors c'est vraiment lié parce que au verset 36, hein, c'est « et il prit ». Donc on est dans la continuité, hein, donc on est dans le même enseignement. Hein,
Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, après l'avoir embrassé, il leur dit, alors là aussi c'est difficile, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même, autrement dit, a tout compris. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir en mon nom l'un de ces petits enfants ? Alors, une fois de plus, je crois que Jésus fait allusion au statut de la personne dont il parle, en l'occurrence du petit enfant. Là aussi, dans l'Antiquité, en tout cas à cette époque, les enfants, bon, les femmes faisaient des enfants tant qu'elles pouvaient, jusqu'à ce que, tant qu'elles pouvaient en faire. Il y avait un taux de mortalité certainement très important. Les enfants n'avaient pas, j'ai du mal à le dire, mais enfin, pas l'importance qu'on leur donne maintenant. Du moins en toute petite enfance. Et alors, par contre, dès qu'ils étaient un peu sortis d'affaires au niveau santé, dès qu'ils avaient un peu d'éducation, etc., et surtout quand ils commençaient à pouvoir prendre part aux travaux, aux durs travaux des champs ou autres, là, ils commençaient à avoir un intérêt, une importance. Mais on voit ça encore dans des sociétés un peu primitives où les enfants, tant qu'ils sont vraiment petits, ils n'ont pas de. Là aussi, ils sont tout en bas de l'échelle, ils ne comptent pas. Vous voyez, ne jugeons pas ni la société de cette époque, ni les sociétés qui sont encore dans cet esprit. Parce que dans notre société, bon, ça c'est une parenthèse, hein, dans notre société, sous prétexte qu'ils n'ont pas encore vu le jour, on les élimine par paquet de 100 et de 10 000 et de 100 000. Vous voyez ce que je veux dire? Sous prétexte qu'ils n'ont pas encore vu le jour. Bon, je referme la parenthèse. Donc, là, Jésus inverse, par rapport au premier enseignement, il inverse un petit peu les choses, parce que le premier enseignement, je vous rappelle, donc, il dit soyez humbles et soyez petits, soyez serviteurs des autres. Et là, il explique comment se comporter vis-à-vis des humbles et des petits. Il s'agit de les recevoir. Alors, là, qu'est-ce que ça signifie? Les recevoir en son nom. Je ne pourrais vous expliquer ça qu'en vous donnant une image. Quand quelqu'un vient chez moi, donc quelqu'un qui va rentrer dans ma maison, je le reçois chez moi, d'accord ? Je peux le recevoir bien, j'espère, si c'est des amis, de la famille. Je le recevrai peut-être moins bien si c'est un représentant qui essaye de me fourguer un aspirateur ou je ne sais quoi d'autre. Vous voyez, la qualité de l'accueil va être variable. Donc, Jésus nous invite à une qualité d'accueil. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous avons un contact avec une personne, quelle qu'elle soit, cette personne, en quelque sorte, fait une intrusion dans notre vie. De la même façon que nous entrons un peu dans sa vie. Un simple contact, une simple discussion, nous entrons chez quelqu'un, et ce quelqu'un entre chez nous. Et peut-être, c'est là que Jésus intervient et dit voilà ce que je vous enseigne, recevez en mon nom. Alors ça demande, parce que évidemment on va tomber sur des gens qu'on va considérer comme beaucoup plus bas dans la matière que vous voulez, spirituellement ou socialement, ce que vous voulez, ou intellectuellement. Et là Jésus nous dit si vous le recevez en mon nom, c'est-à-dire comme Jésus lui-même l'aurait reçu, eh bien, vous me recevez moi-même. Vous voyez l'enjeu. Bon, il reste que nous avons quand même beaucoup de difficultés avec cette humilité. Je crois qu'on l'apprend un peu comme un bizutage. Vous savez ce que c'est qu'un bizutage ? Ça, c'est une tradition malheureuse dans pas mal de facultés de les nouveaux venus sont brimés par les plus anciens et doivent exécuter des tâches humiliantes pour être acceptés et puis faire définitivement partie de, voilà. Alors l'humilité serait comme on le prend comme une brimade, comme un bizutage qu'il faudrait passer pour avoir accès au royaume des cieux. Alors bien entendu, on est là dans cette idée-là, on est complètement dans l'erreur. Parce que si on pouvait seulement réaliser la puissance que nous détenons, la force que Dieu nous donne lorsque nous sommes dans l'humilité. Regardez ce que Jésus, avec la plus profonde humilité, a pu réaliser. Il a sauvé la planète, l'humanité. la force que nous donne l'humilité pour réaliser les voies de Dieu. C'est vertigineux. Vous avez des exemples dans toute la Bible, pas seulement dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien. Hein. Vous voyez que les serviteurs, les petits, arrivent à déclencher des trucs extraordinaires. Vous voyez l'épisode de Naaman, c'est une petite servante qui dit « Dans mon pays, c'est une toute petite humble. » Et c'est elle qui va être à l'origine de la guérison de Naaman. D'ailleurs, Naaman, qui est une dure à cuire, au moment où on lui dit « Va te tremper dans le fleuve », il dit « Oh, moi j'ai d'autres choses à faire », il rentre. Et c'est encore les petits serviteurs, les esclaves, hein, les minables, qui disent « Maître, tu devrais quand même essayer ». C'est l'humble qui sauve la situation, c'est l'humble qui détient la réussite. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Vous connaissez cette, je ne sais pas si c'est dans l'Épître, peu importe, dans les Proverbes, ou dans le Nouveau Testament peut-être, je ne sais pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors on se dit que, eh ben, à l'inverse, Dieu se livre aux humbles. C'est logique. Si Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut bien dire qu'il se livre. Et je crois que le Christ n'attend que ça. Que vous ayez l'humilité nécessaire pour qu'il puisse se livrer à vous. Et j'ai envie de dire, livrer, et c'est pas un jeu de mots, corps et âme. Parce que son corps, il l'a donné. Et son âme aussi pour nous. Voilà la clé, voilà ce qui peut nous permettre de nous décoincer vis-à-vis de l'humilité. Parce que, bon, je disais, c'est pas facile, oui, on prend ça comme un bizutage, comme une sorte de brimade, il faut courber les chines, il faut, voilà, être cassé, quoi. Oui, mais dans le Saint-Esprit, avec la force qu'il nous donne, dès lors que nous avons accédé à cette humilité, quelle puissance extraordinaire. Amen.